Beard.
Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Heureuse de vous retrouver en cette journée d'ouverture du procès de Donald Trump. Le procès après la sélection des jurys qui a eu lieu il y a quelques jours. Le procès commence aujourd'hui où le premier témoin sera entendu. Mais au-delà de ça, c'est une véritable affaire de mœurs. Là, Donald Trump qui aurait entretenu une relation avec l'ancienne actrice de films pour adultes, Stormy Daniels. Vous trouvez pas qu'il manque quelqu'un dans le paysage médiatique de la couverture de ce procès? Mais où est Melania Trump? Pourquoi personne cherche à savoir ce que Melania Trump de, non seulement de ce procès, des allégations d'agissement de son mari, puis en passant, c'est pas la première fois qu'il se retrouve devant les tribunaux pour une question de mœurs, une question de... Là, c'était Stormy Daniels, c'est pour avoir payé et falsifié des documents, mais bon, il est allégué qu'il a entretenu des relation avec elle, alors qu'il venait de se marier avec Melania Trump quelques jours après l'accouchement, son accouchement de son dernier enfant. Il y a déjà, on se rappelle de E. Jean Carroll, qui est cette chroniqueuse qui l'a poursuivi au civil pour abus sexuels. Il a été reconnu responsable. Il a été tenu de payer 5 millions de dollars. Il est parti en appel et finalement, c'est beaucoup plus qu'il va payer. Mais où est Melania Trump? Puis là, moi, quand je compare ça à ce que Hillary Clinton a dû subir dans l'affaire qui a opposé Monica Lewinsky à Bill Clinton, je sais pas s'ils les ont opposés, là, je pense que c'est plus les liés. Hillary Clinton devait s'expliquer auprès de l'ensemble des Américains pourquoi elle décidait de rester avec lui. Et encore, il y a quelques années, il y a 2 ans, elle sortait encore publiquement pour essayer d'expliquer pourquoi elle restait avec son mari malgré l'infidélité. On dit même qu'il y a plusieurs femmes américaines, notamment républicaines, qui ont refusé, qui ont justifié le refus de voter pour Hillary Clinton parce qu'elle est restée avec son mari puis qu'elle a fermé les yeux ou à tout le moins pardonné l'infidélité qu'il a fait avec Monica Lewinsky. Et pourquoi Melania Trump, elle ne vit pas les mêmes questionnements, la même pression à tout le moins médiatique? On dirait qu'on fait comme si de rien n'était, tu sais, un ancien président qui est au tribunal pour avoir entretenu une relation avec une actrice porno, falsifié des documents, a déjà été reconnu responsable d'abus sexuels pour une chroniqueuse, mais ça dérange personne. Donald Trump est en train de réécrire le manuel du parfait politicien américain et honnêtement, ça fait peur. Bienvenue à Cube et bienvenue à votre nouvel épisode.
Vous avez vu un grand spectacle.
On en a un plus grand encore.
Luc Lavoie.
Écoute, j'ai tellement ri.
Yasmine Abdel-Fadel.
C'est une pièce d'anthologie.
La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel.
Luc, le grand-père de Biden aurait été mangé par des cannibales de la Papouasie.
C'est son oncle.
Son oncle, pardon.
Alors, tu vois, la semaine dernière, M. Biden s'est exprimé devant un monument aux morts de Pennsylvanie au sujet de son oncle, le sous-lieutenant Ambrose J. Finnegan Fiss, un aviateur de l'armée américaine qui aurait été abattu au-dessus de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, théâtre de violents combats. Et je le cite, « Ils n'ont jamais retrouvé le corps parce qu'il y avait, pause, il y avait vraiment beaucoup de cannibales dans cette partie de la Nouvelle-Guinée », a déclaré M. Biden.
Mais à quoi il pensait quand il a dit ça? Voyons donc!
Tu comprends la version de M. Biden? Selon laquelle il a été abattu. Bon, sa version, là, les documents militaires le contredisent complètement. On dit que M. Finnegan était passager d'un avion de transport Douglas A-20 Evoque qui s'est écrasé dans l'océan après la panne de ses deux moteurs le 14 mai 1944. Mais il a dit ça la semaine dernière, et depuis ce temps-là, ça court. Tu sais, parce que faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, quelques mois, il avait parlé d'une conversation avec François Mitterrand, qui est mort en 1995.
Il voulait parler de Macron.
Eh oui, il a fait la même chose à propos de Helmut Kohl, qui est mort en 2017. Il en a parlé de lui aussi. Alors, tout ça, c'est l'idée que M. Biden est-il en parfait contrôle? Est-ce qu'on devrait lui remettre les codes nucléaires à nouveau pour les 4 années à la Maison-Blanche s'il est réélu? Est-il capable de mener le bateau? On le sait pas, mais à l'heure actuelle, il se trouve que la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais c'est un petit pays de 8 millions d'habitants, à nos yeux, carrément pas développé. Ce sont beaucoup des groupes tribaux qui vivent ensemble.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a eu, historiquement, la découverte qu'il y avait certaines peuplades qui étaient cannibales en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais on parle d'il y a pas mal longtemps, là.
Mais à quoi il a pensé? Il est-tu tombé sur la tête lorsqu'il a dit ça? Là?
Ben, c'est le genre... Faut savoir que la raison pour laquelle on dit pas « Ah, tu vois, il n'y a pas toute sa tête », c'est que toute sa carrière politique, qui a duré plus de 50 ans, ça a été l'histoire d'un gaffeur. Les gens l'ont oublié maintenant, mais le nombre de gaffes qui sont attachés au nom de Joe Biden... Tu sais, il y a ce côté... je sais pas si tu connais de Blarney Rock, là. Il y a un endroit en Irlande où il y a une pierre,
ouais,
qu'on appelle la pierre de Barley. Et les gens vont là, puis ils donnent un coup de langue sur la pierre, puis il paraît que ça les fait parler. Alors, on dit beaucoup des gens comme Biden, qui est de descendance irlandaise. On dit beaucoup de ces gens-là que...
Attends. Il y a du monde qui vont lécher une pierre,
ouais,
en Irlande,
ouais,
puis ils commencent à parler.
Oui.
Hey, moi qui m'inquiète pour ben Samy, là, 17 mois, puis qui parle pas. Voyage en Irlande, c'était sérieux?
Mon Dieu Seigneur, mais pour vous dire le vrai...
Il a dit un mot, par contre, cette fin de semaine, Luc.
Lequel?
Caca.
Il a dit ça?
Le premier mot.
À ton fils?
Oui.
Son premier mot, c'était
caca.
Maman? Ah non, c'était pas maman.
Ni papa, ni maman. Peut-être que c'est ça qu'il voulait dire, par contre. Il a dit caca.
Alors là, t'as le premier ministre du pays de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, monsieur, je ne sais pas, je pense qu'on le prononce Marape, il se trouve que ces déclarations-là ont été faites au moment où le ministre chinois des Affaires étrangères est en visite en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a une importance militaire à cause de la situation géographique juste
évidemment,
en bas de l'Australie. Et il a dit qu'il dénonçait, qu'il voulait que ça faisait paraître son pays comme une bande de cons, qui ne pouvait plus tolérer des choses comme celle-là. Et de toute façon, dit-il, s'il y a quelque chose qu'il peut faire, qu'il vienne dans les jungles de Papouasie-Nouvelle-Guinée, nettoyer ça des armements et des munitions qui ont été laissés là pendant la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Parce que les Américains en ont laissé.
Ben, ils en ont laissé une quantité colossale. Et là, ben, c'est une jungle, comment dirait-on, florissante. C'est une jungle très, très dense, la géographie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, quelqu'un qui décide qu'il va prendre une marche dans la jungle, bang, il peut sauter sur une mine, il peut faire sauter une bombe, il peut faire sauter diverses choses. Alors, M. Biden, son staff, essaye de dire non, c'est peut-être un lapsus. Non, il l'a raconté. Je l'ai vu, là, l'extrait. Il raconte, là. Et là, mon oncle, là, qui était dans l'avion, puis l'avion s'est écrasé, puis on n'a jamais vu de traces de son corps parce qu'il y avait beaucoup de cannibales par là. C'est incroyable, comprends-tu?
Il est un petit peu sénile.
Ben, c'est ça l'affaire. C'est ce que beaucoup pensent, hein. Je veux dire, pendant la campagne de 2016, celle qu'il a gagnée, donc, non, excuse-moi, la campagne de...
2020,
voilà. À un moment donné, il s'est tourné, pendant qu'il parlait à la foule, il s'est tourné un peu vers les gens qui étaient derrière lui, puis il a montré une femme, puis il a dit... Grâce à ma sœur, ta 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 ta. C'était pas sa sœur, c'était sa femme. Il s'était trompé.
François Legault aussi, ça y arrive de mélanger sa sœur.
avec des bisous mouillés.
Avec des bisous mouillés.
Voilà, les bisous mouillés. Alors moi, ça m'a rappelé une anecdote personnelle. Je sais pas si elle est drôle ou pas. Moi, je la trouve drôle parce que à l'époque, quand je l'avais vécu, je l'avais trouvé super drôle. Quand j'étais commissaire général du Canada à l'exposition universelle de Séville en 92, on recevait le pavillon du Canada, c'était the star of the show. Il y avait des files d'attente allant jusqu'à 8 heures parfois pour essayer d'y pénétrer. Et il y avait évidemment des visites VIP, parce que tous les VIP du monde qui venaient, ils se faisaient un petit parcours pour eux, pour les meilleurs pavillons. Il y avait toujours le Canada. Alors, un jour, je reçois un appel de notre service du protocole. Catherine Deneuve va venir visiter le pavillon. Alors, d'habitude, quand on recevait des... Toujours, quand on recevait des VIP comme ça, on avait un salon VIP. Bon, le temps que les choses se mettent en place, parce qu'il y avait une projection d'un film, on causait un peu. Alors, j'avais demandé à Catherine Deneuve, qui était arrivée... Imagine Catherine Deneuve, la star des
dans
stars.
Le temps, ouais, ben oui.
Elle arrive sans maquillage, sans coiffure particulière, habillée comme n'importe qui un week-end, avec une amie, je me souviens pas de son nom. Alors, c'était bien elle, on la reconnaissait, mais on voyait pas la star lumineuse.
Et moins lumineuse.
Alors, je m'assois avec elle et je lui demande quels autres pavillons on va aller visiter. Ah, elle dit, j'ai très peu de temps, j'ai vu celui de la France. Et puis là, je suis venu ici au Canada. Et ensuite, je vais voir le pavillon de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, le pavillon de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'était à peu près grand comme notre studio ici. Puis il y avait comme une chute en papier mâché qui faisait couler de l'eau.
Mais pourquoi elle est là?
Alors, je dis, ben, pourquoi la Papouasie-Nouvelle-Guinée? Très, très sérieusement, elle me dit, mais moi, j'ai toujours aimé les papous. J'ai toujours eu les papous dans mon cœur. C'était devenu la blague au sein du pavillon du Canada.
As-tu perdu tout respect pour Catherine Deneuve après ça?
Non, je pense que c'était de l'humour qu'elle faisait, qu'elle se trouvait très drôle. Mais quand même, avec l'air Catherine Deneuve, tu vois. Ah, moi, j'ai toujours aimé les papous, vous savez.
Les papous. Mon Dieu. C'est juste toi qui as vécu ces affaires-là. Hein? Catherine Deneuve qui te dit qu'elle aime les papous pour parler de la Papouasie. Juste toi qui as vécu ça.
Ben, alors voilà, Joe Biden continue avec son histoire.
Elle est ressortie du pavillon de la Papouasie sans avoir été mangée par des cannibales.
J'aurais dû lui dire attention, Madame Deneuve, il y a des cannibales là,
l'oncle
là-bas, là.
De Joe Biden, on l'a pas retrouvé. Luc Lavoie, merci beaucoup.
Toujours un plaisir.
Yasmine Abdel Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
On parlait il y a quelques semaines des réunifications familiales, le regroupement familial, et on se rappelle qu'il y avait eu des mises en demeure adressées non seulement au ministre fédéral, mais aussi au ministre provincial. Eh bien, les délais déraisonnables, absolument inhumains, ont fait en sorte qu'il y a des familles, 8 demandeurs québécois qui ont décidé de mettre en demeure le ministre de l'Immigration, Mark Miller. Et ça, avec l'appui de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. On va parler avec Lauriane Lachapelle, coordonnatrice du groupe des demandeurs, et maître Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Madame Lachapelle, en quoi cette mise en demeure est différente de celle qui a été envoyée il y a quelques semaines?
Oui, donc de notre côté, cette initiative a pour objectif, premièrement, de défendre l'intérêt public, donc au complet, les 43 000 familles dans la même situation que nous et dont 17 000 ont déjà le CSQ. Mais également pour nous, c'est que nos dossiers soient traités et que tous ceux en qui ont le CSQ soient des demandes qui sont traitées dans les meilleurs délais au Québec, parce qu'il y a pas de, ça n'a pas de sens que nos délais soient de 28 mois pour les cas de regroupement familial externe versus 12 mois pour le reste du Canada. On veut que justice soit faite. On veut que mettre fin finalement à cette injustice-là de traitement entre les différentes provinces canadiennes. Jusqu'à preuve du contraire, l'immigration est un processus fédéral. Donc, on veut être traité de la même façon, peu importe dans la province de destination. Puis, on pense que le recours en mandamus permettra d'avoir cette décision-là provenant de la Cour qui va trancher pour dire que ces délais-là sont injustifiés et injustifiables.
Maître Lapointe, le ministre Miller a dit récemment que lui, il a enlevé ce plafond qui était un peu un plafond imposé par Québec quant au nombre de dossiers qui pouvaient être traités par le fédéral, et demandait à ses fonctionnaires d'accélérer la cadence pour enlever le backlog, cet inventaire accumulé de dossiers qui continue d'attendre. Pourquoi aujourd'hui ne pas juste attendre que les fonctionnaires finalement répondent suite à l'ordre donné par leur ministre? Pourquoi a-t-on besoin d'un jugement de la Cour?
Ben, l'Association des avocats en droit de l'immigration est sur le dossier depuis plusieurs mois, puis des organismes, des regroupements comme Québec réunifié ou le Québec, c'est nous aussi, se sont regroupés depuis le mois de juin 2023 où les délais de traitement entre les dossiers à destination de la province de Québec versus le reste du Canada ont été séparés sur le site d'Immigration Canada. Donc, le dossier a monté en effervescence dans les derniers mois. C'est vrai que le 4 mars dernier, Mark Miller a donné instruction à ses agents de donner de l'amour dans les dossiers du Québec. Moi, je le vis, là, je représente environ, on dépose peut-être 30 à 50 dossiers de parrainage par année. Et étrangement, depuis le 4 mars, ça a commencé à bouger pour les dossiers déposés juillet ou septembre 2022. On voit que les dossiers commencent à se finaliser. Évidemment, il y a toujours des dossiers qui sont plus complexes, qui prennent plus de temps. Mais de l'autre côté, si on veut forcer le gouvernement fédéral à délivrer ou à rendre une décision dans un dossier d'immigration, le bon chemin, c'est effectivement un recours en cour fédérale de mandamus. Et c'est ce que les 8 demandeurs font actuellement. Donc, essayer de presser le gouvernement à finaliser les dossiers. Mais votre question est bonne. Il y a déjà un bout de chemin qui a été fait depuis le début du mois de mars. Et là, je pense qu'on veut vraiment compléter, là, ramener les dossiers, les délais le plus proche possible de 12 mois, qui est la cible du fédéral, finalement.
Est-ce que la différence, là, cette fois-ci, cette action-là, ne vise que le ministre Miller, alors que l'action précédente du, j'imagine, fin février, visait également la ministre Christine Fréchette. Pourquoi cette fois-ci, la ministre Fréchette, elle a un break?
Ben, en fait, la requête que j'ai déposée en Cour supérieure, moi, je visais vraiment à attaquer toute la planification de l'immigration de la CAQ depuis 2018 en disant justement, vous avez pas tenu des consultations publiques en 2022, vous avez reporté l'exercice en 2023. En 2023, il y a des experts, il y a des groupes comme justement l'Association des avocats en droit de l'immigration, Québec réunifié, qui vous ont dit qu'il y avait un problème de goulot d'étranglement. Vous les avez pas écoutés. Donc, moi, c'était mon approche d'aller attaquer la planification. Et c'est vrai qu'en vertu de l'accord Canada-Québec, moi, ce que je disais au niveau de la mise en demeure, donc on retourne au mois de décembre 2023, mais c'était le Québec n'a pas le droit d'imposer un seuil au fédéral, puis le fédéral n'a pas le droit d'écouter le seuil du Québec, parce que si on se fait juste regarder l'accord, puis vous avez fait beaucoup de chroniques là-dessus, beaucoup d'interventions sur les fameux articles de l'accord, là, vous disiez, bon, 13 à 16, tout ça, plus il y a l'annexe 4, bref, dans l'accord, on voit pas nécessairement de pouvoir du Québec de donner un seuil au niveau de la sélection. Donc c'est un peu le but de ce recours-là, justement, de dire au fédéral, à Mark Miller, cette fois-ci, c'est beau les belles paroles devant les médias, de dire que vous voulez traiter les dossiers, mais maintenant, vous êtes confrontés. On verra comment les tribunaux vont l'interpréter, si jamais on se rend là, parce que l'enjeu pour les demandeurs de cette poursuite-là, c'est que leur dossier individuel soit approuvé pendant les délais de traitement de la Cour. Donc, c'est pour ça qu'on a regroupé c'est pas moi, mais qui a été regroupé 8 demandeurs pour essayer de pouvoir toujours durer dans le temps. Là.
Mais là, Madame Lachapelle, vous êtes vraiment impliquée dans tout ce dossier-là de regroupement familial, les recours auprès des tribunaux. Est-ce que vous avez peur que la médiatisation de votre cas fasse en sorte que c'est retardé de manière indue?
C'est une très bonne question, puis c'est une question que plusieurs personnes se posent. Je dirais plutôt le contraire. En réalité, on a plusieurs gens, plusieurs personnes en réalité qui se sont impliquées, que ce soit au sein de Québec réunifié, le Québec c'est nous aussi, etc., qui sont des gens en situation de parrainage et leur dossier a quand même été traité. Donc, il y a des gens qui ont quitté après leur implication, après leur médiatisation et leur dossier a plutôt été traité. Je pense qu'au contraire, la médiatisation, c'est important. Il faut qu'on en parle. Il faut que les familles se lèvent debout. Il faut arrêter de se laisser piler dessus par une administration, par un gouvernement qui nous laisse traîner depuis presque un an maintenant dans une situation totalement dérisoire. Je pense que c'est notre droit en tant que citoyen, en tant que résident, de parler de notre situation, puis de parler de la douleur qu'on vit, c'est important aussi parce qu'il faut ramener ça à l'humain. Derrière ça, il y a des familles, il y a des gens qui souffrent. Imaginez être séparé de votre enfant, votre conjoint, conjointe mariée pendant que ce soit 3 à 4 ans. C'est des années de nos vies qui nous sont littéralement volées par le gouvernement. Donc, moi, au contraire, je pense que c'est notre droit de, il faut se lever, il faut en parler, il faut pas que ça reste étouffé et avoir peur de que notre dossier n'avance pas. Au contraire, ça, ils n'ont pas le droit de se baser sur notre implication médiatique pour ralentir nos dossiers.
Mais en même temps, il y a le gouvernement aussi provincial où qui est en train de discuter de potentiel référendum sur l'immigration. On est en train de dire qu'on veut avoir tous les pouvoirs en immigration ici au Québec. Est-ce que ça serait une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour des familles comme la vôtre d'avoir finalement que le Québec soit puisse être le seul au volant en ce qui concerne le regroupement familial?
C'est une très bonne question et je pense que les opinions politiques peuvent différer d'une personne à l'autre. Nous, tout ce qu'on veut, c'est un processus raisonnable avec des délais raisonnables. Que ça vienne du gouvernement fédéral ou que ça vienne du gouvernement provincial, ce que les familles veulent, c'est la même chose. Donc, nos demandes ne changeront pas qu'il y ait les pouvoirs de l'immigration au sein du Québec au sein du gouvernement fédéral. Donc, la question demeure la même qu'on soit pour un référendum d'immigration ou pas. Donc, ça reste la même demande, nous, qu'on veut. C'est des délais raisonnables de 12 mois. Et puis je n'entrerai peut-être pas dans ce débat politique à cet instant, puisque je respecte les opinions de chacun, mais je pense que les demandes de nous, les familles, qu'on veut, c'est vraiment des délais raisonnables et finalement d'avoir nos conjoints et conjointes avec nous et de pouvoir vivre nos vies, tout simplement.
Au-delà de la question politique, Maître Lapointe, est-ce que vous, de votre point de vue, vous êtes avocat, vous accompagnez ces familles-là, vous voyez finalement les étapes qui sont, on passe au provincial, le fédéral, bref, c'est un peu compliqué. Comment vous voyez un potentiel regroupement finalement des pouvoirs en immigration au Québec, notamment en matière de regroupement familial?
Quand même mal. En fait, si le Québec avait tous les pouvoirs en immigration, François Legault a essayé au mois de juin 2022 justement d'aller chercher plus de pouvoirs en matière de regroupement familial. Et le but, c'est d'imposer un niveau de connaissance du français au dépôt du dossier. Donc, il y a plusieurs familles dans les 43 000 familles qui auraient même pas pu déposer ou qui pourraient pas déposer de demande de regroupement familial s'il y avait une exigence de français. Donc, là-dessus, je prendrai un pas de recul. L'immigration, c'est une compétence partagée. Et si on parle aussi des quotas annuels, les seuils de 50 000, le 50 000, c'est trop, quand on sait qu'il y a 150 000 personnes qui ont un CSQ dans peu importe la catégorie, on voit que les inventaires, les arriérés massifs sont causés par le gouvernement provincial dans toutes les catégories. Donc, de confier plus de pouvoir en voulant moins d'immigration, ça fait attendre les gens plus longtemps. Et là, les gens s'en rendent compte. Les médias s'intéressent au sujet. Et ça va être intéressant, là, au niveau, justement, de la mise en demeure à Mark Miller, de voir comment les gouvernements, le gouvernement de la CAQ, mais surtout les partis d'opposition, vont s'intéresser au débat. Là, on le voit, bon, Parti libéral est d'accord avec les propositions de Québec réunifié, entre autres, Québec solidaire aussi. Donc, on verra comment le Parti québécois, le Parti conservateur du Québec vont se positionner. Il y a des élections en 2026, ça s'en vient. Mais pour le moment, le regroupement familial, c'est une catégorie qui est fédérale. Si on enlevait le seuil annuel imposé sans droit par Québec, on réglerait le problème. Partout ailleurs au Canada, les délais sont de 12 mois. Et depuis l'annonce de Mark Miller, pour donner des statistiques, là, pour ceux que ça intéresse, j'ai un dossier déposé donc de l'intérieur du Canada où la personne parrainée est à l'intérieur. J'en ai plusieurs en septembre 2022 qui sont approuvés aujourd'hui, donc on est à plus de 17 mois. Et de l'extérieur du Canada aussi, j'ai eu deux enfants des Philippines qu'on a déposé au mois de novembre 2022, qui ont été approuvés la semaine dernière. Donc, ça bouge.
Espérons que ça va bouger plus rapidement pour que ces familles puissent retrouver les leurs le plus rapidement possible et qu'on n'ait pas besoin d'attendre les tribunaux pour que finalement on ait un peu d'humanité au sein de nos appareils d'immigration et de regroupement familial. Lauriane Lachapelle, coordonnatrice du groupe des demandeurs, et Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci.
Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Je vous invite à rester avec nous. On va poursuivre l'épisode de Yasmine dans quelques minutes. On va parler, entre autres, du français, parce qu'il y a un article dans le Journal de Montréal aujourd'hui qui dit que dans les écoles francophones, le français est boudé. Les jeunes ne voient pas la nécessité de parler le français. Ils disent carrément aux journalistes, là, si on veut parler anglais, qu'est-ce que ça change? Et même qu'ils sont tannés de se faire avertir de parler français dans leur école, qui est pourtant francophone. Pour eux, l'anglais, c'est la langue qui rejoint tout le monde. C'est notre collègue Alexandre Moranville-Ouellette qui va réagir à cet article-là avec Yasmine. Puis si vous aussi, là, vous voulez ajouter votre grain de sel, si vous voulez nous dire comment ça se passe avec vos enfants, comment ils communiquent avec leurs amis, ou peut-être que vous travaillez aussi dans les écoles puis que vous voyez qu'est-ce qui se passe sur le terrain, bien, je vous invite à nous écrire là, tout de suite. Messagerie texte 1-877-827-2346, le 1-877 Cube Radio. Puis tant qu'à le mettre, dans votre application de messagerie texte, ajoutez-nous dans vos contacts parce que après ça, ça va être juste plus facile de nous texter et de nous texter. Sinon, vous pouvez aussi nous écrire par courriel au studio à commercial@cube.radio. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode parce que ensuite de ça, on va revenir sur cette histoire qui est carrément horrible, là. Un père de famille qui est décédé d'une crise cardiaque à Cuba. Et au moment de rapatrouiller le corps, ils ont reçu la mauvaise dépouille. Imaginez la famille, là, vous êtes en deuil et cette situation-là vous arrive. On va parler à sa fille, Myriam Jarjour, en fin d'épisode. Alors, restez avec nous, cube.ca, l'application Cube aussi, pour nous écouter en direct. Ou encore la chaîne télé, qui n'est plus débrouillée. Il faut penser à l'ajouter à son forfait de chaîne spécialisée. Vous pourrez voir comment ça se passe dans les studios de Cube.
Pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel Fadel. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN. À LCN.
14h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec Yasmine Abdel Fadel, conjointe dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine.
Bonjour Marianne.
Les maires de la métropole qui se mobilisent, je dis de la métropole, Laval, Longueuil, le Grand Montréal, se mobilisent pour réclamer que ça bouge concernant le financement des transports en commun. Le maire de Laval qui dit « Notre réseau est près de l'effondrement ». On évoque notamment une hausse substantielle des frais d'immatriculation comme une avenue possible. Qu'est-ce que tu en penses, Yasmine?
Ben, j'ai l'impression qu'on rejoue dans le même film que l'automne dernier, là, où on mettait beaucoup de pression sur le gouvernement du Québec pour éponger une partie des déficits d'exploitation. C'est important de le dire, là. Ça, c'est vraiment les opérations qui sont supposées être financées par ces sociétés de transport-là. Ben, évidemment, avec la pandémie, ils ont accumulé des déficits à chaque année, étant donné une diminution importante de l'achalandage pour finalement demander à Québec d'éponger une partie des déficits, ce que Québec a fait. Mais il faut se rendre compte que les sociétés de transport, là, elles peuvent pas à chaque fois payer avec une carte de crédit, envoyer le relevé de carte de crédit à Québec, puis lui dire, regardez, nous, on n'a pas le courage de soit mieux organiser nos opérations, mieux s'organiser financièrement. Le municipal veut pas nécessairement perdre des plumes politiquement avec une augmentation de taxes qui, soit dit en passant, était réclamée par ces mêmes villes, parce que les villes réclamaient le pouvoir de taxer les droits d'immatriculation de manière supplémentaire un peu partout au Québec. Là, avant, c'était juste la CMM, c'était un peu partout au Québec. Depuis le mois de décembre, c'est possible grâce à un projet de loi d'André Laforêt, la ministre des Affaires municipales, mais ils veulent pas l'utiliser. Ils veulent pas avoir l'odieux de dire « c'est nous qui allons augmenter les taxes ». Alors, ils demandent à Québec de payer ces déficits-là. Alors, Québec ne peut pas leur dire où couper, ne peut pas leur dire de mieux s'arranger avec leurs troupes, ne peut pas leur dire qu'il faut optimiser les ressources qu'ils ont pour mener les opérations qui sont sous leur responsabilité, mais doit reprendre la facture.
Mais il l'avait fait un peu, Yasmine. On avait dit, faites le ménage là, pour voir où il y aurait possibilité de couper, puis après ça, on se reparlera. Ça avait été fait quand même dans un premier temps, non?
Ben, ça a été demandé et la ministre a demandé à ce que des audits soient faits dans les sociétés de transport partout au Québec. Ces audits-là sont en train d'être faits et on va avoir les résultats à l'automne prochain, l'automne 2024. Alors moi, je trouve ça très prématuré, la lettre des différents maires et mairesse aujourd'hui, étant donné que les audits n'ont même pas encore donné une avenue d'optimisation des opérations et des ressources financières, qu'on est déjà en train de mettre le singe sur les épaules du provincial pour dire ramasser la facture. C'est un peu particulier, à moins que ce soit une opération concertée pour déjà préparer le terrain, puis créer l'urgence, là, puis sensibiliser la population pour dire, regardez, vous allez payer plus de taxes si Québec ne veut pas entendre. J'espère que ces audits-là vont réellement donner l'heure juste quant à l'utilisation des ressources qui sont déjà énormes, là, qui sont consenties aux sociétés de transport. Puis c'est pas vrai que la STM vit la même chose que la STL, qu'à Laval ou Longueuil. Là, ils ont des réalités différentes et probablement des moyens d'optimiser qui sont bien différents. Je pense que c'est à ça que doivent s'atteler les élus municipaux avant d'envoyer des lettres à Québec.
Par ailleurs, parlons de ce qui se passe au tribunal à Manhattan. Aujourd'hui, bon, déclaration d'ouverture ce matin, début également des témoignages au procès de Donald Trump. Yasmine, je lisais ton papier dans le journal. Tu es, comment dire, ahurie de voir Trump redéfinir ce à quoi on s'attend d'un politicien.
Ben, Marianne, on a un ancien président qui est aujourd'hui devant les tribunaux pour avoir falsifié des documents de manière à cacher de l'argent qu'il aurait donné à une ancienne actrice porno. Un ancien président qui a été reconnu responsable d'un abus sexuel envers une chroniqueuse E. Jean Carroll pour laquelle il doit lui verser des millions de dollars. Ouais. Un ancien président qui est devant les tribunaux pour avoir contribué à l'insurrection du 6 janvier dernier. Ben, 6 janvier 2020. Mm-hmm. On a un ancien président qui est devant les tribunaux parce qu'en Géorgie, il aurait essayé de manipuler les votes. Et on a un ancien président qui est, malgré tout ça, populaire et qui pourrait se retrouver avec les codes nucléaires au mois de janvier prochain. C'est assez surréaliste. Et ce qui me surprend encore plus, c'est Melania Trump, que l'on voit nulle part. Son mari est devant des tribunaux. Il y a une campagne, non seulement une campagne présidentielle, mais il a aussi une campagne judiciaire qu'il mène de front les deux en même temps. Mmh. On a l'habitude de voir les épouses des présidents et des personnalités publiques politiques à leur côté lorsqu'ils traversent des mauvaises périodes comme celle-ci. Elle est aux abonnés absents. Hillary Clinton, elle devait elle-même justifier les raisons pour lesquelles elle a choisi de rester avec Bill Clinton après l'affaire Monica Lewinsky. Ça l'a suivi toute sa vie. Encore il y a quelques mois, elle donnait des entrevues pour justifier.
Mais il y a un bout de temps que Melania Trump est plus discrète, faut dire. Ça fait quand même un certain temps, là.
Visiblement, elle ne veut pas sortir publiquement avec son mari, mais c'est particulier. Là, il y a comme quelque chose qu'il faut éclaircir là-dedans. Est-ce qu'ils sont ensemble, sont pas ensemble? Est-ce que elle appuie encore son mari dans sa campagne présidentielle ou pas? Moi, je trouve que Melania Trump, elle joue assez bien ses cartes pour ne pas être dans le viseur des journalistes. Mais est-ce que c'est tenable à long terme?
Merci, Yasmine. Au revoir.
Au revoir.
Yasmine Abdel-Fadel.
Si on veut sauver le français, la surpolitesse doit prendre le bord. C'est une question de survie. C'est ce que va nous dire Alexandre Morin-Ville-Ouellette pour réagir à l'article du Journal de Montréal. As-tu vraiment l'impression que c'est pas cool de parler français dans les écoles du Québec?
Mais là, c'est sûr qu'en lisant l'article de nos collègues, hein, qui traite de Vaudreuil-Dorion, puis on se comprend. On est proche du West Island, ouais. Ça déborde par là, il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Puis là, aujourd'hui, en réaction, c'est Jean-François Roberge, Bernard Drainville qui sortent des médias en disant « C'est de la faute à tous ces demandeurs d'asile qui arrivent ici, qu'on n'est pas capable de franciser. » Là, c'est comme des élèves de seconde à 5 là, qui sont interviewés dans cet article-là. Là, c'est pas eux qui viennent d'arriver puis qui sont les enfants de demandeurs d'asile. Là. On se comprend, ils étaient déjà là depuis un petit bout. Puis, certes, il y a une pression qui est surnaturelle, là, j'utilise ce terme-là, sur nos services de francisation puis sur notre capacité d'être capable d'accueillir puis de bien intégrer les gens qui viennent ici. Mais...
mais on parle pas des pas francophones, là, ici. On parle de personnes francophones qui parlent le français puis qui étudient en français, là.
Ben voilà. Puis c'est là que... honnêtement, moi, je suis inquiet. En lisant des textes comme ça, c'est pas surprenant pour moi, mais c'est inquiétant de voir tout ça. Parce que si on n'est pas capable d'intéresser même nos jeunes francophones à leur propre langue, comment on va être capable de faire survivre le français dans 10, 15, 20, 30 ans?
T'es-tu en train de me dire que la publicité avec le
faucon?
Le faucon fonctionne pas?
La publicité avec le faucon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, c'est une tentative. Puis je pense que le combat pour la survie du français, parce que c'est un combat, c'est une pente montante, on va se le dire. Plus le temps va avancer, plus on va continuer à être bombardé de produits culturels anglophones, produits culturels américains. Les réseaux sociaux, c'est en anglais. Les jeux vidéo, c'est en anglais. Tous les produits auxquels on expose nos jeunes, c'est en anglais. Fait quelque part, qu'on fasse des tentatives, là, moi, j'ai pas de problème avec la Coalition Avenir Québec qui essayait de faire quelque chose de différent. Puis c'était bizarre, franchement, là, cette publicité, franchement bizarre.
Un peu cringe.
Mais quelque part, ouais. Franchement malaisant, dirais-je. Mais quelque part, c'était un essai. Puis que, quand on fasse de l'essai-erreur, l'important pour moi, c'est d'être proactif, d'essayer de trouver des solutions. Parce que là, d'avoir des jeunes qui disent, ouais, c'est pas convenient de parler en français. Mais excuse-moi, c'est parce qu'on, soit on te l'a mal enseigné, le français, soit on t'a pas donné, t'sais, la passion. Pour ça. Puis
ouais, mais quand on était jeunes, là, Alex, là, on disait que c'était cool, puis pas cool, puis cool, là, ce que je sais, c'est pas français.
Non.
Il y a comme un jargon de jeunes qui se développe, là. T'sais, on n'était pas mieux, là.
Mais non, on n'était pas mieux. Mais c'est là aussi qu'il faut le dire. On n'était pas mieux. Puis quelque part, le franglais, là, cette espèce de mixité entre le français et l'anglais, c'est pas nouveau, là. Il y en a-tu tellement ici au Québec des termes anglophones qui datent de la Révolution tranquille puis d'avant puis qui sont encore utilisés quelque part, là.
Ben oui.
Un goaler au hockey, là. J'appelle encore ça un goaler. Ben oui, exact.
Un break à bras. C'est pas un enfant de 5e secondaire qui dit ça, là.
Ben non, mais ça, c'est un bel exemple de franglais. Quelque part, mais c'est dommage, mais pas dommage en même temps. Parce que si quelqu'un te parle tout en français, mais qui dit break à bras dans sa phrase, j'en ai pas de problème. Parce qu'il y a des termes comme ça qui vont finir par s'implanter dans notre langue. Puis le Québécois, je pense que je suis rendu à parler de ça, le français, mais le Québécois est appelé à muter. Hein, ça va se transformer au fil des années. Puis malgré moi, j'intègre encore plein d'anglicismes quand je parle. Mais quelque part, je pense ce qui est plus inquiétant, c'est pas tant qu'il y a des jeunes qui parlent de l'anglais, le français, du franglais de temps en temps, puis qui ont des conversations un peu dans cette mixité des deux langues. Mais C'est l'intérêt, puis c'est l'amour qui est porté à notre langue. Puis oui, je veux parler d'amour, là, puis traitez-moi de grand romantique, si vous voulez, là-dessus. Là. Puis pour moi, il faut être en amour avec sa langue. Puis ça
ouais,
passe...
mais tu peux-tu forcer l'amour?
Non, puis c'est là l'autre problème.
On est-tu en train de forcer l'amour?
Dans cet article de...
Mariage arrangé entre les jeunes puis le français?
Mais dans cet article, ce qui est décrié, puis là, attends, deux poids deux mesures, là, ils disent, dans le cours de français, arrête pas de nous harceler puis qu'on parle en français. Ça, oui, vous êtes dans un cours de français. Comme dans le cours d'anglais, ils te disent, it's English only, puis c'est bien correct parce que c'est ton but, c'est d'apprendre ça. Mais dans le reste de l'école puis dans les corridors, c'est vrai qu'il y a des intervenants qui passent puis qui avertissent les jeunes parce qu'ils parlent pas en français. Là, on a un problème. Pas sur le fond. Je comprends ce que ces gens-là veulent faire. Mais est-ce qu'il y a pire à faire que d'interdire un adolescent de faire quelque chose?
Ça y tente encore plus de faire ce que tu y interdis de faire?
Ben oui, moi, cet âge-là, là, n'importe quelle occasion là, d'être un peu rebelle puis de me dresser pour une cause ou une autre, puis contre puis pour ça, puis pour la liberté, puis pour mes choix individuels, là, j'ai beau être un francophone, un nationaliste convaincu, Yasmine, là, à 16 ans, tu m'aurais interdit de faire quelque chose. Le lendemain matin, j'organisais une manif.
Mais c'est là où je suis d'accord tellement avec toi là-dessus. Là. J'ai trop l'impression qu'on est dans la répression puis pas en train de transmettre la passion puis la raison pour laquelle il faut être fier d'être francophone, il faut être fier de parler français, il faut être fier d'être le village gaulois en Amérique du Nord. On joue pas assez sur cette carte-là qui pourrait être intéressante pour les jeunes. Là.
Oui. Pour moi, c'est ça, le nerf de la guerre. C'est d'arrêter de chercher les 36 solutions quand l'important, c'est de faire en sorte de susciter un intérêt, d'y aller positivement, puis d'être capable de montrer à nos jeunes, de montrer même à ceux qui ont de la difficulté en français, à ceux qui parlent pas le français comme langue d'origine, à quel point ben, c'est élément centralisateur commun du Québec, puis l'importance historique de la chose. Si on était capable de traverser des tempêtes, si on était capable de traverser des efforts d'assimilation concret et sincère de la part de gouvernements colonialistes qui ont précédé dans notre histoire, et on est capable de passer au travers de la vague des réseaux sociaux puis tout ça. Puis je vais aller encore plus loin, Yasmine. Moi, j'entends beaucoup de gens, là, puis souvent des gens plus vieux qui comprennent. Moi-même, là, je suis pas sur TikTok. On se comprend, c'est vraiment
c'est
quelque chose...
C'est tellement le fun, tu passes tellement de temps libre, là.
Ouais, c'est ça.
Je sais, mais, je suis droguée à ça.
Mais démoniser TikTok, puis particulièrement les contenus francophones sur TikTok, bien ça, c'est contre-productif
bien
aussi.
Sûr.
Parce que quand j'étais jeune, là, moi, là, ça commençait les réseaux sociaux, puis des vidéos YouTube, puis les parodies québécoises d'Harry Potter, puis de Caillou, là, ça s'appelait Caillou Roche, ça sacrait à toutes les deux secondes. Je connais encore ces vidéos-là par cœur.
C'était ta claque.
Mais ça, c'est des référents communs.
Et Willy Waller 2006.
Puis sur TikTok, il y en a des jeunes francophones, des jeunes Québécois qui font du contenu francophone.
Oui.
Puis ça, il faut arrêter de le démoniser parce que les moyens maintenant d'amener la culture, puis d'amener le français, puis d'amener cet amour-là aux jeunes, c'est plate. Mais c'est plus les grands reportages à Radio-Canada. C'est pas ça qui va intéresser
pas
le jeune.
Pas soirée canadienne, là.
Non, ça va être du contenu de réseaux sociaux. Fait que pour trouver le moyen d'atteindre tout ça, pour trouver le moyen de rendre le français cool, pour trouver le moyen, c'est ironique que je dise cette phrase-là, mais le français cool, il y a des moyens qui sont plus positifs, mais il faut les trouver. J'ai pas toutes les solutions, mais donner l'amour, donner...
Mais les influenceurs, là, ces réseaux sociaux qui parlent aux jeunes, là...
En français?
Faut les soutenir. Ils sont un vecteur de protection de la langue française ici au Québec.
Ben absolument. On n'a pas l'impression que c'est le cas, mais c'est le
important.
Cas quand même. Le nouveau contenu culturel, il passe par là. Puis Yasmine, je voulais dire, ça sort des écoles, ça sort, je pense, d'un contexte global. Puis c'est plate ce que je veux dire, mais j'ai posé la question en fin de semaine à des amis, puis de la famille. J'essayais de voir un peu c'était quoi l'impression des gens autour de moi, parce que pour moi, là, la surpolitesse, je trouve qu'au Québec, on est ultra trop poli. Quand on rencontre quelqu'un, si on est un groupe, là, on est 10 francophones, un non-francophone, puis il y a de la misère à comprendre, là, tout le monde parle en anglais. On va tous switcher, je vais le dire comme ça.
Ouais.
On va tous basculer vers l'anglais pour être capable d'accommoder la nouvelle personne qui vient d'arriver. Il y a des rencontres, un travail, un gros meeting qui se fait. Un anglophone, 9 francophones, ça va parler en anglais.
Mais c'est-tu juste propre aux Québécois? Parce que je pense qu'en France, ce serait la même chose. En Espagne, ce serait la même chose. Au Portugal, ce serait la même chose.
Je me pose la question. Parce que quelque part, est-ce qu'on n'est pas capable, de, oui, d'introduire, d'aider, mais de se parler en français, traduire un peu pour l'autre personne, donner des idées, donner... Parce qu'on a appris l'anglais, puis je pense que c'est normal aussi d'avoir appris l'anglais. Puis je suis pas quelqu'un qui va dire « Vous devez parler qu'en français. Ouais. » Mais d'apprendre l'anglais, puis de se donner cet outil-là, d'avoir une deuxième langue, qui est la langue des affaires, qui est la langue internationale, j'ai pas de problème avec ça. Non, moi-même, là, je suis parfaitement bilingue. Mais quand quelqu'un parle en anglais, m'aborde principalement en anglais... Je suis au Québec, je peux me permettre de répondre en français ou d'essayer de guider mes réponses, de répondre dans deux langues. Quelque part, d'être surpoli constamment avec tout le monde qui vient ici, je pense que ça rend pas service à personne. C'est dommage, ça rend pas service à personne. Accompagnons, éduquons, donnons des trucs, mais le français, c'est notre langue commune. Ça doit l'être, le demeurer, puis le devenir dans certains cas pour des gens pour qui ça ne l'est pas. Puis d'être toujours constamment en train de... Je vais pas dire faire de l'aplat-ventrisme, parce que c'est ça qu'on fait. Pas vraiment, on essaie d'être poli, on essaie d'être gentil, on essaie d'être accueillant. Parce que ça aussi, c'est propre du Québec, d'être accueillant. Mais quelque part, si on continue à... Ah oh oui, OK, oh, c'est plus facile en anglais. Ah, il va mieux me comprendre. Ah, ça va être plus simple.
Je pense à Michael Rousseau, moi. Lui, il est venu de nulle part, là. Lui, c'est un gars d'ici.
Si tu me passes au Michael
Rousseau.
Pas
un immigrant, là.
Non, Michael Rousseau, c'est terrible. Puis il a toujours pas appris un saint mot de français.
Pas
la gouverneure générale du Canada, un pays bilingue, ne parle toujours pas un traître
elle
mot
plus,
de français.
Elle non plus, pas une
immigrante. Non plus, elle non plus, pas une immigrante. Là, si tu me passes sur ces cas-là, hey, je comprends là, que pour certaines personnes, des jeunes sont à l'école puis ont plein de nouveaux arrivants puis ils basculent en anglais. Puis c'est plus facile pour moi de faire ça. Hey, je comprends. Quand t'es un anglophone de souche, t'es au Québec depuis toujours, puis t'es fier, heureux, content de pas parler un mot de français.
Il y a un problème.
Ah, ça, c'est de l'aveuglement volontaire. C'est volontairement, tu dis non, j'apprends pas la langue ici, puis je peux me permettre de pas l'apprendre, puis.
Ça changera rien à mon quotidien.
Pis les autres sont tellement polis qu'ils vont me parler en français si je les aborde en anglais.
Et on se rappelle que notre GG national, notre gouverneur général qui a reçu Gabriel Attal, premier ministre de la France, l'a reçu en anglais. Alexandre Morin-Ville-Ouellet, merci beaucoup.
Je suis déprimé. Salut.
Non, faut pas.
Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel.
J'ai lu cette nouvelle ce matin dans le Journal de Montréal et honnêtement, je pouvais pas y croire. Une sur à Cuba, dans un tout inclus cubain, une famille qui est partie passer des vacances, en tout inclus, une semaine de temps. Le père est décédé sur place, crise cardiaque, décédé au bord de la plage. Rapatrier le corps, il a fallu déposer 10 000 $ auprès du consulat, de l'ambassade en fait. Ils ont reçu le mauvais corps. Ils ne savent toujours pas le corps de leur père et où. Et le décès remonte au 22 mars dernier. On parle avec la fille du défunt, Myriam Jarjour. Bonjour, Madame Jarjour.
Bonjour.
Racontez-nous là, cette péripétie. Je pense que même un film trouverait ça trop gros pour produire un tel film.
On était en vacances pour une semaine. La deuxième journée, mon père a eu une crise cardiaque et a décédé là-bas. Fait que la première chose, on est resté comme de 3h30 jusqu'à minuit, le corps sur la sable et on ne peut pas le toucher. Il fait très chaud. On doit attendre l'ambulance là-bas.
Mais il n'y a personne qui est venu constater le décès depuis qu'il est mort. Il n'y a personne qui est venu le prendre.
Il y a une, y a un médecin qui est passé après une heure pour checker si mon père est décédé ou non. Elle m'a dit c'est décédé. On doit attendre l'ambulance. Fait qu'on a attendu dans l'ambulance 8 heures pour arriver à la plage pour ramasser le corps. Ils m'ont dit qu'il va amener au Havana parce que là-bas, il y a l'hôpital où il y a le frigo. Que mon la père morgue. Là-bas. J'ai contacté le consulat canadien à Cuba. Il m'a dit, vous devez présenter lundi. J'ai présenté lundi. Il m'a donné un numéro avec un email. Il m'a dit, vous devez le contacter pour faire le paiement. Quand vous avez retourné au Canada, quand le paiement est fait, le procédure, ça va commencer pour transférer le corps. J'ai retourné au Canada, j'ai contacté le gestion du cas consulaire, il s'appelle gestion région 5, désolé, à Ottawa. J'ai fait le paiement, c'est 10 150 et ils m'ont envoyé un email qu'ils ont reçu l'argent, ça va transférer le corps dans 15 jours ouvrables. Après 10 jours, j'ai reçu une autre email que ça dit que mon père, il va sortir de 18 avril de Cuba et il va arriver le 19, le vendredi le matin. Fait que le 19 avril, la maison de funéraire, j'ai contacté avec la maison de funéraire pour aller au aéroport pour chercher le cercueil. Ils ont cherché le cercueil et j'ai demandé si il peut prendre une photo pour voir si c'est le corps de mon père ou non.
Mais vous avez eu la présence d'esprit, vous avez eu, c'est vous qui avez eu la présence d'esprit de demander une vérification, autrement vous ne l'auriez jamais su.
Ouais. On est les trois, on dit, est-ce que ça c'est le corps de mon père? Est-ce que je me sens qu'il y a quelque chose, il n'y a pas bon. Parce que quand ils ont ramassé le corps, c'était comme, ils ont passé, ils ont pris le corps, ils ont parti. Le passeport, c'est avec le police, c'est pas avec le corps. Fait que je trouve que c'est bizarre. Fait que quand le corps il est arrivé au Canada, je me sens qu'il y a quelque chose qui est pas bon. Fait que j'ai demandé d'ouvrir le cercueil pour checker le corps de le cadavre de mon père. Fait qu'il m'a dit ça va passer au laboratoire pour préparer parce qu'on a réservé tout pour le funéraire pour mon père et tout ça. Fait qu'il m'a dit il va le préparer pour le funéraire et comme ça il va prendre une photo, il va m'envoyer. Fait que après 2 heures, mon frère il a eu un appel de demander si mon père il a des cheveux. Mon père il a pas de cheveux. Si mon père il a des tatous, mon père il a pas de tatous. En plus, il est plus jeune de mon père de 20 ans. Fait que mon frère il a choqué comment il va me dire. Il va dire à ma mère aussi parce qu'on est déjà stressé que mon père est décédé.
Mais Madame Chargeur, depuis que vous avez appris ça, vous êtes rentrée en contact avec les autorités canadiennes auprès desquelles vous avez payé 10 150 $. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit et où est le corps de votre père actuellement?
On ne sait pas où il est. J'ai contacté par téléphone avec le gestionnaire de cas consulaire. Elle m'a dit que on peut rien faire. On est comme c'est pas la responsabilité de gestion de cas, c'est la responsabilité des compagnies qui transfèrent le corps, tout ça. Mais moi, je lui dis que moi j'ai payé à vous ici à Ottawa. Elle m'a dit, j'ai demandé d'envoyer un email pour me dire qu'elle n'a pas la responsabilité. Fait qu'elle m'a envoyé un email, ça dit qu'elle va essayer de contacter le ministère étranger, mais il ne s'occupe pas le comme parce que c'est pas son responsabilité.
Est-ce que vous avez, depuis ce matin, là, depuis que la nouvelle est sortie publiquement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a contacté depuis du ministère des Affaires étrangères canadien pour vous prêter assistance puis essayer de régler ça le plus rapidement possible parce que vous ne savez même pas où est le corps de votre père actuellement? Est-ce que quelqu'un vous a contacté, votre député fédéral, le ministère des Affaires étrangères? Je pense qu'on a perdu Mme Chargeour, mais à quel point cette histoire est absolument rocambolesque? Imaginez, ils ont perdu un corps! Ils sont pas capables de trouver le corps de leur père qui est mort à Cuba. Ils l'ont laissé pendant 8 heures de temps sur la plage, le corps sur la plage, avant qu'une ambulance vienne le chercher. C'est absolument épouvantable qu'une famille puisse vivre ça et que le gouvernement fédéral, qui est supposé offrir des services consulaires, des services pour accompagner les familles endeuillées, ne puisse pas porter assistance à ces familles-là. Moi, je trouve ça absolument épouvantable qu'une famille ait besoin de sortir dans les médias parce qu'ils se sont rendus compte que le corps qui leur a été envoyé à partir de Cuba, ben c'était le corps d'un Russe qui a 20 ans de moins avec des cheveux, des tatous qui correspondent en rien au corps du défunt. Absolument épouvantable. Je pense que non seulement le gouvernement doit des réponses à cette famille, mais il le doit à l'ensemble des Québécois qui voyagent dans le Sud et qui pensent qu'ils sont protégés et soutenus par notre réseau de système diplomatique. On va suivre cette histoire-là de très près. On va revenir avec des nouvelles dès qu'on va en avoir. Mais pour le moment, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube Radio. Cube.